l'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des Tiers-Mondes et de la solidarité internationale.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est Marie-Claude qui vous accueille dans ce studio. Voilà, et je suis en compagnie de Monsieur Philippe, Michel, excusez-moi, Michel Vinas. En plus, je connais bien ton nom, Michel Vinas, qui est le président de l'association Espoir pour un enfant. Voilà, et donc nous allons pouvoir un peu explorer les sentiers des actions de cette association. Bonjour Michel.
Bonjour Marie-Claude.
Enchantée de vous recevoir ici. Donc est-ce que vous pourriez nous retracer un petit peu, nous dire quels sont les objectifs de l'association et nous retracer un petit peu peut-être un peu l'historique aussi, parce qu'on a parlé tout à l'heure, c'est une émission, une association ancienne. Voilà.
Mais donc pour faire un petit historique d'Espoir pour un enfant, c'est une association qui est issue de Terre des Hommes au départ. Et la scission s'est faite il y a 40 ans maintenant, un peu plus même, à propos du financement. Il y avait trop de frais de fonctionnement. Mmh. Et Espoir pour un enfant est une association où il n'y a que des bénévoles. Et on tient à avoir des frais de fonctionnement le plus bas possible. En général, ils sont toujours en dessous de 5%. Espoir pour un enfant est une association qui s'est axée un peu aussi sur les hospitalisations. C'est-à-dire que le but principal de l'association est de soigner des enfants qui ne peuvent pas l'être dans leur pays. Alors on fait venir souvent des enfants qui viennent souvent d'Afrique, où les structures médicales ne permettent pas de les hospitaliser. Et ils sont accueillis en France dans une famille d'accueil qui va s'occuper d'eux pendant la durée de leur séjour. Ils sont hospitalisés en général à Montpellier, le temps qu'il faut, disons, pour les soigner, pour les guérir, si on peut les guérir, effectivement, au moins améliorer leur état de santé. Et une fois qu'ils ont été soignés, ils repartent dans leur pays, ils repartent dans leur famille. Alors, on reçoit, à un certain moment, on recevait jusqu'à 50 enfants dans l'année qu'on soignait à Montpellier. C'était assez... Actuellement, on a diminué. Et puis, bon, avec la pandémie, les difficultés pour faire venir les enfants, les difficultés pour les faire repartir, les difficultés pour les soigner à l'hôpital actuellement, on a beaucoup baissé. Et bon, depuis 2020, là, on tourne à 7-8 enfants dans l'année. Mmh. Et avec beaucoup de difficultés à la fois pour les faire venir et pour les faire repartir. Voilà, c'est, disons, le but principal de l'association. On fait aussi des parrainages. Des parrainages pour soigner et faire manger des enfants qui sont dans des petits orphelinats ou qui sont des enfants qui sont déjà venus, qui sont très pauvres, qui sont dans des familles pauvres. Et souvent, les familles d'accueil tiennent à ce que l'enfant puisse continuer après à être soigné, à aller à l'école et qu'il mange à sa faim. Et ça, c'est quelque chose, donc, on a à peu près actuellement 300 enfants qui sont parrainés, qui, ça leur permet d'aller à l'école et d'assurer la nourriture tous les jours. Il y a aussi un autre aspect qui était au départ d'ailleurs des sports pour un enfant, qui vient de Terre des Hommes, c'est le développement. On fait pas mal de développement. Alors c'est quelque chose qu'on est en train d'accentuer actuellement parce qu'avec la difficulté de faire venir les enfants, nos finances nous permettent de faire davantage actuellement, de faire davantage de développement. Alors là, on a construit une école à Cotonou. On vient de faire deux réhabilitations d'écoles au Congo. On va continuer encore cette année. On a fait l'année dernière 4 classes. Cette année, on va faire encore certainement autant, au moins autant. On a un autre projet au Bénin. On travaille aussi au Niger. On travaille au Mali. Au Mali, certainement aussi, on a un projet pour faire une classe pour des sourds-muets. Et disons que bon, ça nous permet, le fait d'hospitaliser moins d'enfants en ce moment, nous permet dans notre budget de prendre davantage de développement. Il y a un autre aspect aussi, on envoyait des médicaments avant dans les dispensaires, dans pas mal de dispensaires, dans des cliniques, et ça a été interdit depuis 2009, et on avait compensé en envoyant une dotation médicale. Et là, actuellement, avec les difficultés de la pandémie, on a carrément doublé notre dotation médicale. Donc, on envoie entre 2 000, 1 500 et 2 000 euros à certains dispensaires, à une quinzaine de dispensaires en Afrique. Voilà. Ce sont grosso modo les objectifs essentiels de l'association. Alors, heureusement, on a quelques cliniques. On a, par exemple, la clinique Saint-Jean, essentiellement, qui nous fait jusqu'à 10 hospitalisations gratuites par an. Ça avait été mis en place par un docteur qui était allé sur place, qui avait fait des consultations et qui s'était rendu compte qu'il y avait beaucoup d'enfants qui ne pouvaient pas être soignés. Mmh. Et il avait demandé à la clinique, à ce moment-là, c'était le docteur Bosque, il avait demandé à la clinique Saint-Jean s'ils étaient d'accord pour le suivre, pour faire 10 hospitalisations gratuites par an. Et ça fait plus de 20 ans maintenant qu'on fait effectivement... on a la possibilité de faire 10 hospitalisations gratuites par an à Saint-Jean.
Ce qui est énorme.
Oui, c'est important pour nous.
Financièrement parlant, oui.
Parce qu'une hospitalisation à l'hôpital, elle va en général au minimum de 5 000 à 50 000 euros. Quoi. Donc ça demande un budget assez important, un budget conséquent. Et en plus, on ne sait jamais trop où on va dans une hospitalisation. Il y a ce qui est prévu et puis il y a ce qui peut arriver. Voilà.
Tout à fait.
Il y a tous les Donc autres. La réanimation, c'est 3 000 euros la journée. L'hospitalisation est très chère. Quoi.
Voilà. Ouais. Donc c'est tout ça, c'est vrai que c'est vraiment une chance pour ces enfants. Hein. C'est-à-dire que voilà, on est aussi dans la possibilité de prolonger la vie d'enfants qui seraient condamnés à mort, à mourir là-bas. Quoi,
ouais. Sur place. C'est des enfants qui, si on ne les prend pas, en général, on les prend uniquement quand ils ne peuvent pas être soignés sur place. Ouais. Alors on aide aussi sur place en Afrique. Chaque fois qu'on a un endroit où un enfant, on a un appel pour un enfant qui est pauvre, qui ne peut pas être soigné, effectivement, on met en place, si on peut le soigner sur place, on paye carrément l'hospitalisation. On prend en charge tous les frais médicaux. Quoi. Ça, c'est le but. Même si on pouvait, on ne soignerait les enfants qu'en Afrique, dans la mesure où, effectivement, il y aurait les structures pour le faire.
Oui, absolument.
Mais il y a des pays très pauvres. Actuellement, on travaille beaucoup avec le Burundi, qui est un pays qui, au niveau sanitaire, a très peu de moyens. Et donc, même parfois, on fait les hospitalisations à côté, au Rwanda, si on peut, ou dans un pays voisin. Mais sinon, on fait venir beaucoup d'enfants en France du Burundi en ce moment, parce que c'est un endroit où on ne peut rien faire pratiquement d'important comme hospitalisation.
Oui, et parce que quand vous disiez que justement, ce que vous faisiez aussi, c'est d'aider sur place, parce qu'il faut rappeler quand même que dans la plupart de ces pays, la sécurité sociale, ça n'existe pas, tout est payant pour la famille.
Ça nous pose des problèmes un peu pour effectivement trouver des correspondants fiables, c'est-à-dire des correspondants qui vont s'investir. Nous, on est des bénévoles. En Afrique, c'est plus difficile d'être bénévole.
Tout à fait.
Et donc, il y a quand même des gens qui nous aident. Qui font le... Mais alors, on n'en trouve pas beaucoup, effectivement. Et on est souvent en recherche de trouver des gens qui vont s'occuper des enfants pauvres pour les faire soigner. Et disons que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile à mettre en place. C'est quelque chose qu'on met en place depuis des années et qui ne tourne pas suffisamment pour nous, à notre goût, qu'on aimerait soigner davantage d'enfants. En France, c'est pareil. Actuellement... Alors, on prenait avant beaucoup d'orthopédie, beaucoup de bec de lièvre, fente palatine. Heureusement, maintenant, ça se fait sur place. Beaucoup de ces enfants, maintenant, sont soignés sur place. Et donc, effectivement, on ne fera plus venir 50 enfants comme on faisait avant, parce qu'il n'y a pas les besoins. Et les enfants qu'on vient ont souvent des pathologies beaucoup plus importantes, beaucoup plus longues à soigner, beaucoup plus difficiles et beaucoup plus coûteuses.
C'est sûr. Et c'est vrai que de pouvoir... quand on voit qu'effectivement, il y a des choses qui se développent aussi là-bas sur place, mais on part de tellement loin au niveau des moyens financiers, des politiques de santé dans les pays, etc. Et c'est vrai que, par exemple, l'histoire du bec de lièvre et tout, oui, moi j'ai connu, par exemple, des enfants qui ont été opérés grâce à vous ici en France, et c'est formidable parce que l'aide aussi financière qu'on peut apporter, c'est-à-dire on peut sûrement opérer au moins 2 ou 3 enfants, parce qu'on n'a plus le transport, on n'a pas les frais ici qui sont quand même très importants. Et du coup, on peut aider un peu plus d'enfants à être opérés. Quoi.
Ouais. Ouais. C'est vrai que... Mais même, on est très content, effectivement, quand on a des nouvelles des enfants qu'on a soignés il y a 10, 15, 20 ans et qui, actuellement, ont continué des études. Alors bon, il y a ceux qui ont continué des études, mais il y a ceux qui ont un travail, qui étaient handicapés, vraiment handicapés, et qui n'avaient aucune perspective d'avenir. Et puis, qui ont monté un atelier de couture, qui ont monté un autre fait du jardinage. On en a un qui s'occupe en particulier d'autres handicapés. Il a monté au Sénégal. une structure dans laquelle il y a un berger, ce sont que des handicapés. Il y en a un qui fait de la couture, lui il fait du jardinage, et il s'occupe d'autres handicapés. Alors chaque année, on lui envoie des fauteuils roulants, on lui envoie du matériel médical. Ça aussi, je ne l'ai pas parlé tout à l'heure. En général, on envoie chaque année un conteneur de matériel médical et de matériel scolaire. En général, on l'envoie au Bénin, où on a un dispensaire qu'on a aidé et qui est devenu une clinique, qui est devenu depuis 2 ans maintenant, qui est une clinique, parce qu'on l'aide bien au niveau du matériel médical. On y envoie du matériel. Alors, en même temps, il y a une école à côté, parce que le docteur qui s'est occupé de ce dispensaire pendant longtemps s'est rendu compte que soigner les enfants, si en même temps il n'y avait pas l'éducation, s'il n'y avait pas l'hygiène, s'il n'y avait pas la régulation des naissances, et c'était sans fin, quoi. Il n'y avait pas d'issue. Et donc, il a monté cette école, on a créé cette école en 2000. Au départ, c'était sur une ancienne catéchèse, c'était une école sur pilotis au bord d'un lac, au bord du lac à Cotonou. Et au départ, il n'y avait que des garçons d'ailleurs, 50 garçons dans cette école. Et 3 ans après, quand même, il y a eu une école qui s'est construite en bois sur le lac et qui contenait 150 gamins, 150 écoliers. Et filles et garçons, ça a commencé filles et garçons, et puis petit à petit, il y a eu autant de filles. Actuellement, il y a autant de filles que de garçons. Alors cette année, il y a eu des problèmes, effectivement, avec la pandémie, ça a posé quelques problèmes. Mais sinon, c'est une école qui avait 350 enfants l'année dernière, et 350 enfants, autant de garçons que de filles, à qui on envoie du matériel scolaire. On les a équipés aussi d'une salle d'ordinateur. Il y a une bibliothèque. Donc, c'est quelque chose qu'on a construit petit à petit, en 20 ans, avec le docteur qui s'occupait de ce dispensaire.
Voilà. Alors, c'est super, une super expérience et réalisation. Et je dois dire, au début, vous nous avez parlé, vous nous avez dit que vous faisiez aussi du développement. Et quand vous parlez, je me disais, bon, moi qui connais aussi ces problématiques-là, je me disais que quand vous insistez sur le fait qu'il y ait autant de filles que de garçons, c'est bien quelque part que quand même, dans ce développement, on inclut l'éducation, y compris l'éducation des parents, et que c'est quand même un signe très positif d'évolution et de développement quand il y a autant de filles que de garçons qui vont à l'école, quoi.
Ah oui,
parce que la déscolarisation des filles là-bas, elle est énorme, quoi. Normalement.
En plus, ce qui est important, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'était important que les filles, ça va être les mamans.
Oui,
elles vont devenir
fait.
Les mamans qui vont s'occuper des enfants et qui vont transmettre. Alors ça, c'est important. Voilà. Ça, c'est vraiment essentiel que les mamans puissent après mettre en pratique l'hygiène qu'elles ont appris à l'école, parce qu'elles l'apprennent à l'école, elles vont le mettre en pratique après dans leur vie de tous les jours. C'est un endroit où on a encore le choléra. On a des choléra épidémiques. Et donc, l'hygiène est primordiale.
Est primordiale. Ouais. Donc voilà, nous touchons essentiellement là à l'histoire du développement de l'éducation. Et on voit bien qu'après, c'est cette transmission-là qui permet qu'un pays évolue.
Oui.
Alors, si vous en êtes d'accord, parce que c'est intense tout ce que nous disons, on pourrait peut-être faire une petite pause musicale.
Oui, si
avec le morceau que vous avez choisi, vous voulez l'annoncer ?
Mais c'est la Marche des Rois.
Marche des Rois, donc dont j'ai appris grâce à vous que c'était une vieille chanson provençale, je crois, voilà, qui a été ensuite reprise par Bizet.
Oui.
Et qui a inclus cette Marche des Rois dans son fameux opéra. Comment ça s'appelle ? Ça va me revenir. Oui. Et que justement, nous rentrons vraiment dans la composition classique, Carmen, c'était Carmen de Bizet. Et nous rentrons dans le classique grâce au folklorique, grâce à la
Bien
tradition.
Sûr.
Voilà, donc on écoute morceau de l'orchestration, c'est d'orchestrer de la Marche des Rois. Voilà.
Armés
Eh bien voilà, je vous retrouve donc pour cette émission Les échos de la solidarité internationale, donc avec mon invité qui représente qui est le président, pardon. Pardon Michel, qui est le président de la maison
L'espoir
pour un enfant. Hein, ce matin, je perds la mémoire. L'espoir pour un enfant. Donc Michel, c'était passionnant, enfin tout ce que vous nous avez expliqué, toutes ces interventions qui font quand même, qui permettent à des enfants, eh ben, de se développer malgré tout, malgré la pauvreté, malgré le dénuement, malgré le manque d'infrastructures hospitalières entre autres, puisque c'est essentiellement médical ce que vous faites. Même si j'ai bien entendu que vous aidez aussi au développement et que vous soutenez des projet important là-bas. Et moi, j'aurais eu la curiosité de vous demander comment, vous avez expliqué que vous intervenez dans plusieurs pays, comment vous rencontrez les projets à faire, comment vous rencontrez les gens. Vous parliez aussi tout à l'heure d'avoir des correspondants fiables sur place, que je confirme, c'est essentiel. Comment vous arrivez un peu sur ces plusieurs pays, quoi, comment vous arrivez?
Ça s'est fait par de plusieurs manières. Une des premières, disons, qu'on envoyait des médicaments, effectivement, à une quinzaine de dispensaires, même 18, je crois, ou 20 à l'époque, de dispensaires ou d'hôpitaux. Et donc, effectivement, on avait des relations avec... parfois, c'était des religieuses qui tenaient les dispensaires, parfois des docteurs, parfois des... Et donc, ces relations, on les a gardées. Et quand ils ont chaque fois un enfant qui a un problème, qui aurait besoin d'être soigné et qui ne peut pas l'être dans son pays, chaque fois, ils nous ont prévenus. Alors, il y en a qui ont développé ça beaucoup plus que d'autres. On avait en particulier une religieuse qui avait monté un gros dispensaire, qu'ils appelaient ça même un hôpital, en bordure dans la région de Gao, au nord du Mali, et qui nous envoyait pratiquement une vingtaine d'enfants chaque année, parce qu'elle récupérait tous les enfants qui n'étaient pas soignés, parce qu'alors là, par contre, au Sahara, aucun enfant n'était hospitalisé. Et donc, elle nous récupérait pratiquement une vingtaine d'enfants qu'on faisait venir en France et qu'on soignait chaque année. Bon. Le problème, c'est qu'avec les attentats terroristes, avec tous les problèmes du Mali, on a perdu toute cette source, effectivement, de gamins qui venaient, qu'on soignait et qui, actuellement, ne le sont plus, quoi. Voilà. On ne peut plus accéder à ce pays. Après, il y a d'autres endroits où, par contre, on continue à travailler au Mali, à Bamako, avec des enfants même du pays Dogon, actuellement. On est en train... on n'en a pas fait revenir depuis deux ans, maintenant. Mais cette année, je pense qu'on va faire revenir des gamins qui attendent maintenant depuis deux ans d'être soignés pour... qu'on puisse rétablir les correspondances avec Aviation Sans Frontières, parce qu'on se sert d'Aviation Sans Frontières pour faire venir les enfants. Ils prennent en charge les enfants dans le pays, ils nous les amènent ici, et quand ils sont soignés, après quand ils sont guéris, ils les ramènent dans leur pays. Là, on travaille avec une association qui fait un gros, gros travail. Et en plus de ça, bon, on a d'autres correspondants, on a des gens qui vont sur place, qui connaissent aussi des gens qui soignent les enfants déjà là-bas, dans les pays d'Afrique, que ce soit à Madagascar, que ce soit au Togo, au Bénin, il y a pas mal de pays avec qui on travaille, au Sénégal, au Cameroun. Et disons qu'on a des personnes qui vont sur place et qui nous trouvent des correspondants, des correspondants qu'ils connaissent bien, qui savent...
Des personnes de l'association.
Ce sont des gens, des amis de l'association.
Ou des amis qui vont sur place, voilà, qui se rendent dans les pays, d'accord.
Disons qu'il y a des gens de l'association aussi qui y vont. Là, actuellement, on a des gens de l'association qui sont au Mali, qui sont en train de travailler, voir comment on peut construire cette classe pour les sourds.
Tout à fait.
Avec un enseignement, justement, pour sourds-muets, quoi. Et donc, c'est ce qui nous permet, effectivement... Alors, c'est vrai qu'on est toujours en recherche de personnes qui vont nous mettre en relation avec quelqu'un sur place pour faire un travail sûr, quoi. Voilà, ce qui nous importe, nous, c'est que l'argent qu'on met, on veut qu'il soit employé à 100%.
Tout à fait. Et,
à Espoir, il n'y a que des bénévoles. On travaille tous d'arrache-pied pour mettre le maximum d'argent aux soins des enfants, à l'éducation des enfants. Et on cherche à trouver des correspondants sur place qui font la même chose. Voilà.
Voilà, je confirme que je crois totalement à la puissance des petites associations comme la vôtre, comme d'autres, qui justement se fonctionnent au niveau, ont très peu de frais de fonctionnement, puisqu'on ne, on ne fonctionne que sur le bénévolat. Voilà, pour avoir vu des grosses institutions là-bas caritatives avec des immeubles climatisés et des voitures 4x4, vraiment, on ne peut se féliciter, voilà, de cette éthique-là. Donc, bon, vous avez... Parce que c'est vrai que le souci aussi, c'est de pouvoir quand même avoir une gestion qui soit assez transparente, quoi, et sur laquelle on se...
Ah, mais on a une gestion très transparente. D'ailleurs, on est très, très attentif à ça. Pour nous, c'est essentiel. D'abord, tout le monde est bénévole à 100%. Il n'y a pas de... Si quelqu'un va en Afrique pour visiter un endroit ou l'autre, il le fait à ses propres deniers,
tout à fait,
il fait
à
ses propres frais. Donc, on est une association, on paraît un peu radin, même parfois, parce qu'on ne paye rien. Il n'y a pas de frais de déplacement, il n'y a pas de repas, il n'y a pas de boisson. Disons qu'on partage entre nous. Quand on fait un repas, ben chacun amène, on partage ses... Et je crois que ça crée un climat de confiance qui est important dans une association. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des moyens.
Voilà, on allait y venir, donc c'est bien. Je suis précédé par mon invité, c'est super.
Oui, parce que on est tous bénévoles et on vit que de dons. Quand on regarde bien, tout ce qu'on fait, c'est réalisé par des dons. Alors, on a un petit peu de subventions, mais ça représente en général à peu près 2% de notre budget, pas plus. Et tout le reste vient des dons. Et les dons, disons, ce sont alors... Les dons financiers, effectivement, il y a des gens qui nous font des dons, carrément. Il y a les cotisations rentrent dans les dons. Mmh. On a des dons aussi, parfois des gens qui nous offrent, parfois même qui nous mettent sur leur testament. Donc on a des dons assez importants. Ah, ouais. On a eu un don important qui nous a permis d'avoir un local. Mmh. Et on travaille depuis sur ce local à Saint-Jean-de-Védas. Et puis, on a tout ce que les gens nous amènent. Alors, les gens nous amènent des vêtements en bon état, vêtements, de la brocante, de la vaisselle, des livres. On vend un peu de tout, hein. Tout ce qu'on nous donne, on le revend. Les jouets, on fait beaucoup d'argent aussi actuellement avec les jouets en très bon état. Donc, tout ce qui nous est donné et qui peut être revendu est revendu sur place. Et on fait pour ça des braderies, on fait des manifestations dans lesquelles on vend. Et cet argent, à mesure, est récupéré. Et ça représente quand même la moitié de notre budget. Une année normale, on a un budget de l'ordre de 400 000 euros. Il y a 200 000 euros qui viennent du travail des bénévoles, c'est-à-dire que tout ce qui nous est donné est trié et revendu. Et ces ventes nous rapportent à peu près 200 000 euros par an. Les 200 000 euros restants sont les dons. Les parrainages. Les parrainages, ce sont des dons. Hein.
Tout à fait.
Ça représente 300 euros par an. Et il y a des gens qui nous donnent depuis 30 ans, 40 ans, qui chaque année font un versement de 25 ou 30 euros par mois pour les parrainages. C'est important. Ça représente plus de 60 000 euros par an, quand même. Et donc, ce travail des bénévoles est un travail constant. C'est-à-dire qu'au local de Saint-Jean-de-Védas, quatre fois par semaine, on reçoit les dons et on fait le tri. On fait le tri, on range, on sépare à mesure le linge d'enfants, le linge d'hommes, ainsi de suite, les vêtements d'été et d'hiver. Et après, on va les remettre en vente. Et il y a pratiquement une dizaine de personnes le lundi, le mercredi, le jeudi, le samedi, qui viennent trier, qui viennent ranger, qui viennent... Ça représente beaucoup, beaucoup de travail. Mais ça se fait dans la bonne humeur, dans une bonne ambiance. Et c'est vraiment... Et alors après, quand on a tout stocké, on a un local de vente à Saint-Jean-de-Védas. On en a un autre qui marche pas mal aussi à Montarnaud. On en a un petit aussi à Palavas. On en a un autre à Cazoules-les-Béziers. Et puis après, on fait des grosses ventes, on fait des braderies. Alors les braderies, ça s'organise... dans les villages aux alentours, à Gijan, à Montbazin, Pignan, Saint-Jean-de-Védas, on fait des braderies dans lesquelles on amène la marchandise. Mm-hmm. Alors le vendredi, en général, on met en place. Le samedi, le dimanche, on fait la vente pendant toute la journée. Là, on a les braderies prévues la première quinzaine de février à Gijan. La semaine d'après, c'est à Pignan. Au début du mois de mars, c'est à Saint-Jean-de-Védas. Et là, on va faire une braderie dans la cour du local, à Saint-Jean-de-Védas. Mm-hmm. C'est à 7 terres rue fond de l'hôpital, pour ceux qui ne connaissent pas. Mm-hmm. Et là, on va mettre en vente, dans la cour du local, on va mettre en vente samedi prochain, beaucoup de choses, de la vaisselle, de la brocante, des jouets. On a des bijoux qu'on récupère de...
Donc voilà, si on veut faire des bonnes affaires, on s'adresse.
Voilà, disons qu'on vend, on vend très bon marché, des affaires qui sont très belles en général, qui sont bien triées. Mm-hmm. En particulier, je pense, les bijoux ont beaucoup de succès, les bijoux, les livres, les jouets, et puis les vêtements. Alors c'est surtout les vêtements de femmes, et puis la brocante aussi. On a de la jolie vaisselle, on a un peu de tout quoi en brocante. Mm-hmm. Et c'est vrai que ça fait des affaires de gens aussi qui, d'abord. Ça permet de recycler ce qu'on reçoit, des choses qui souvent auraient été jetées, que nous on recycle. Mmh. Et en plus, on peut faire de belles affaires.
D'accord. Donc, si on veut profiter de ces aubaines-là, on peut aller voir le programme sur... Vous avez un site ? Vous avez quelque chose ?
Oui, bien sûr, on a un site. J'ai oublié d'en parler. C'est vrai qu'au niveau de l'information...
Voilà,
on a,
de l'information, oui.
Le site s'appelle Espoir Enfant 34.
Oui.
Et on le trouve facilement sur Google.
Je confirme, je suis allé voir, ouais, c'est facile. Voilà, si il est très facile à trouver, il est très bien fait.
Ça s'appelle Espoir Enfant 34.
Site est très bien
on
fait.
A un bulletin aussi d'information. Mmh. Ce bulletin, on l'envoie effectivement à 4000 exemplaires pratiquement, avec tous les gens, à la fois les gens qui ont adhéré, les gens qui sont, tous les gens qui participent quoi, à l'association reçoivent le bulletin. On essaye d'en faire 4 par an.
Ouais. Oui, d'accord. Mais écoutez, Michel, c'était très complet. Donc, rappelez-nous le nom du site, comme ça, toutes les informations et tout ce que vous n'avez pas eu le temps de dire sera à voir sur ce site. Votre site, donc, c'est Espoir...
C'est Espoir Enfant 34.
Espoir Enfant 34.
Voilà.
Et c'est très, très...
Et le siège social est à Saint-Jean-de-Védas.
Saint-Jean-de-Védas.
7 terre rue fond de l'hôpital.
Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Et puis, bon succès. J'irai voir, parce que je vais peut-être, un de ces jours, venir à une de vos ventes. Et on souhaite bon vent encore, bonnes longues années à votre association.
Merci. Alors... à vous de m'avoir reçu.
Merci. Donc, rapidement, un petit programme à annoncer. Donc, demain, mardi 11, à la Carmagnole, à 19h, Mathieu Rigouste, qui est assez connu, il avait eu Maya partir dans des manifestations avec la police, etc. Il présentera son film qui s'appelle « Un seul héros, le peuple ». Voilà. Et puis alors ensuite, ce sont des annonces de l'association France-Palestine Solidarité. Donc le 14 janvier à 18h30, salle Guillaume de Nogaret, il y a une rencontre débat avec Thomas Vescovi, qui est l'auteur du livre « L'échec d'une utopie, histoire des gauches en Israël ». Voilà. Ensuite, le lundi 17 à la Carmagnole à 18h30, il y a un film, une projection aussi, ça s'appelle Gaza, le peuple mis en lumière. C'est une expérience de résistance qui sera faite donc à 18h30 à la Carmagnole lundi 17. Et enfin, le 28 janvier à la salle Rabelais à 20h, dans le cadre du festival de cinéma chrétien, il y aura la présentation du film palestinien Wajib de Anne-Marie Jassir, donc un film palestinien présenté à la salle Rabelais à 20h le 28 janvier. Voilà, au revoir très chers tous et puis à bientôt.